Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Emmanuel Macron entame aujourd'hui en Martinique un déplacement de 4 jours aux Antilles, quelque peu perturbé par la tempête tropicale Kirk. Principal temps fort de ce séjour martiniquais, le chef de l'État doit aborder la question délicate de la pollution au chlordécone, cet insecticide ultra-toxique largement employé dans les bananeraies jusque dans les années 90, après son interdiction en métropole, avec des conséquences dramatiques pour les Antillais qui détiennent le record du nombre de cancers de la prostate. Toujours pas de mise en examen ni d'indemnisation des victimes. C'est ce que déplore l'avocat Harry Durimel, président du Rassemblement écologiste et volontariste, à l'origine d'une plainte déposée en 2006.
Dans de nombreuses études, il est établi qu'on est passé de la présomption d'innocence à la présomption de culpabilité. Le chlordécone est la cause majeure de cette épidémie de cancer de la prostate que nous vivons et qui a déjà fait que 100 personnes meurent chaque année à cause de ce fléau. Et 500 cas sont révélés chaque année sur une population de 400 000 habitants. Vous voyez bien que c'est l'épidémie. Donc quant à l'aspect perturbateur endocrinien, le chlordécone pourrait avoir une implication dans les taux d'obésité et de diabète que nous avons ici. Et c'est des maladies qui sont accentuées par les perturbateurs endocriniens. C'est une vraie catastrophe.
Il y a un plan d'action de l'État qui court jusqu'en 2020. Emmanuel Macron va l'évoquer sur place. Des sources d'eau ont été fermées ou traitées, des zones ont été interdites à la culture. Est-ce que ce plan, il suffit aujourd'hui ?
Mais c'est le Conseil même national du développement durable qui a reconnu l'insuffisance des différents plans chlordécone plus orientés vers la communication, vers rassurer les gens et faire croire que tout baigne et que on a fixé des limites maximum de résidus. Finalement, les insuffisances de ce plan, c'est beaucoup de communication et ces mesures ne sont pas à la dimension de la catastrophe.
L'avocat Harry Durimel au micro de Lucie Barbarin. Emmanuel Macron donc en terrain potentiellement miné aujourd'hui aux Antilles. Climat de défiance par ailleurs pour l'autre tête de l'exécutif, Édouard Philippe, ce matin à Marseille, à l'ouverture du congrès des régions. Hier soir, les élus locaux, associations de régions, de départements et de maires, ont appelé l'exécutif à mettre fin à une logique, disent-ils, de recentralisation, s'élevant contre la suppression de compétences et de crédits qui étranglent les collectivités locales. La candidature à la Cour suprême des États-Unis a été fragilisée hier soir par de nouvelles accusations d'agression sexuelle. Le juge Brett Kavanaugh arrive un peu plus plombé aujourd'hui au Sénat américain qui doit valider ou non son entrée dans la plus haute juridiction des États-Unis. Brett Kavanaugh auditionné sous serment aujourd'hui, tout comme sa première accusatrice, Christine Blasey Ford, une universitaire de 51 ans. Les États-Unis attendent désespérément le feu vert du Sénat pour confirmer l'entrée de Brett Kavanaugh à la Cour suprême avant les élections de mi-mandat en novembre, car ce conservateur placerait en minorité les juges progressistes à la Cour suprême. Brett Kavanaugh soutenu une fois de plus hier soir par Donald Trump lors d'une conférence de presse à New York en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Le Proche-Orient, lui, en première ligne aujourd'hui à l'Assemblée des Nations unies. Le Premier ministre israélien et le président palestinien doivent y prendre la parole dans un contexte de grande tension et de blocage total des discussions de paix. L'occasion peut-être aussi de sauver l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, qui menace de fermer à la mi-octobre. Son principal financeur, les États-Unis, ont décidé de s'en retirer. L'agence gère pourtant des écoles et des centres de soins pour 5 millions de réfugiés palestiniens. À Gaza, l'agence a déjà réduit la voilure et la fermeture de l'UNRWA y est envisagée comme une catastrophe, Étienne Monin.
Avec ses couleurs bleues et blanches, l'agence de l'ONU à Gaza est une institution. Elle assure l'aide alimentaire, l'école pour plus de 250 000 enfants et elle gère des centres de santé dont profite Mahmoud, jeune père de famille du camp de Shaad.
Déjà une vie de réfugié ici, c'est très dur. Sur le plan économique, c'est très dur maintenant. Donc ici, on ne vient que pour les médicaments et pour les soins.
Mais l'UNRWA, c'est aussi le deuxième employeur de l'enclave. 13 000 personnes dépendent de sa santé. Cette crise ajoute à la crise, dit le président du syndicat Amir Al-Messa.
Comme vous le savez, Gaza souffre d'un blocus depuis 10 ans. En plus, il y a une division politique et le chômage masqué. C'est pour ça que licencier 956 personnes qui travaillent pour les Nations Unies, ça va accentuer la catastrophe.
Officiellement, 113 personnes ont été licenciées à Gaza. Pour elles, c'est un saut dans le vide, explique Ismaël Rabat qui vient de perdre son poste de traducteur.
C'est impossible ici de trouver un travail parce qu'on vit dans un pays qui est fermé. Il n'y a plus d'argent dans le pays. Trouver un travail, on peut dire que c'est quasiment impossible.
L'avenir de Gaza semble intimement lié à celui de l'UNRWA, qui était la dernière grande institution à pouvoir assurer une stabilité économique.
Étienne Monin à Gaza pour France Culture. Le temps de ce jeudi 27 septembre, de plus en plus ensoleillé au fil des heures. Si les températures sont fraîches ce matin, elles seront comprises au meilleur de la journée, entre 20 et 26 degrés au nord de la Seine, comptez de 24 à 32 sur le reste du pays. C'est la fin de cette édition réalisée avec François-Charles Domergue. Prochain journal de la rédaction, midi et demi avec Thomas Cluzel.